cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe le 12 octobre l'an 2000 à Saint-Jean-d'Arc.
Vous avez dit au sujet de l'être présent dans la matière qu'il est pur devenir jusqu'à devenir non-être. En science, on apprend que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, rien ne se crée, tout se transforme. C'est très juste. Au point de vue du devenir, il n'y a pas de premier. Donc, tout se transforme. Alors, le savant ne saisit que le devenir, par sa méthode, par l'expérience. Alors, c'est en conformité exacte avec ce qu'on peut affirmer. Il n'y a qu'en trouvant l'être qu'on peut trouver un premier. Le devenir n'a pas de commencement. Vous n'insistez pas au commencement du devenir, parce qu'il faudrait dépasser le devenir. Ce ne serait pas le devenir. Comment expliquez-vous cette différence de regard sur la cause matérielle ? Parce que tous les deux saisissent cause matérielle, appellent cause matérielle. L'artiste aussi parle de cause matérielle. Le philosophe parle de cause matérielle. Dans toutes les parties de la philosophie, quand je saisis la cause matérielle en philosophie de la nature, je saisis la nature matière. Quand je saisis la cause matérielle en métaphysique, je saisis la pure puissance. C'est-à-dire un être qui radicalement est dépendant d'un autre. La matière, c'est du reste très cru, la causalité matérielle, c'est une causalité qui accapare, parce qu'elle n'a rien. C'est le mendiant par excellence, c'est le mendiant métaphysique, la cause matérielle. Vous pouvez l'appeler comme ça. Alors comme ça, vous comprendrez. Mendiant métaphysique, c'est le mendiant au point de l'être. Il mendie l'être, parce qu'il ne l'a pas, il est pure puissance. Il mendie l'être en acte, c'est de l'être en puissance. Donc inatteignable par le sensible. Or, la science saisit toujours ce qui m'est donné dans l'expérimentation. Donc, elle ne quitte pas le sensible. Alors là, on pourrait discuter, la science ne saisit pas le sensible, les sensibles propres, mais saisit les sensibles toujours par les sensibles communs. Mais ça, on verra ça plus tard en critique. Et la réponse est cela, c'est que le savant reste dans le devenir, et il n'y a pas de premier dans le devenir. Donc, on ne saisira jamais la vraie cause matérielle. On saisira ce qu'il y a au commencement, ou ce qui est indispensable. L'être en devenir implique la matière. Condition sine qua non. La condition sine qua non pour que le devenir existe, c'est la matière. Donc, il n'a pas de commencement. Alors, vous dites que la recherche de l'âme a inquiété l'homme. Oui. Doit-on en conclure que l'être humain est nécessairement inquiet. Non, non, il n'est pas nécessairement inquiet. Il n'est inquiet que quand il cherche. La recherche implique toujours une inquiétude, mais pas une inquiétude psychologique. On peut dire qu'on est inquiet quand on n'a pas tout. On ne se repose que quand on est parfait. C'est pour ça que quelquefois on a beaucoup de peine de dormir, parce qu'on n'est pas parfait. Quand on est parfait, c'est-à-dire on a accompli sa journée parfaitement, tout va bien, il n'y a pas de grosse inquiétude qui t'arrive juste une heure avant qu'on dort, alors il y a une grosse inquiétude, alors à ce moment-là, on ne dort pas, on est inquiet. L'inquiétude vient toujours d'un manque. Alors, vous voyez, si on recherche, il y a toujours un manque. Mais beaucoup de gens ne cherchent pas, donc ne sont pas inquiets. Le novice, par définition, n'est pas inquiet. Parce que le novice, on lui apporte la nourriture spirituelle, intellectuelle. On lui apporte tout. Le novice, alors il n'est pas inquiet. C'est une année de repos. Mais le père maître vous fait marcher le novice. Hein. Le novice, il ne marche pas tout seul, il marche avec le père maître. Mais il n'est pas inquiet. C'est le père maître qui est inquiet. Parce que le novice, quelquefois, c'est la ruade de l'âne, tu vois, alors il est inquiet, il a peur de recevoir la ruade de l'âne. On pousse. Alors, doit-on en conclure que l'être humain est inquiet? Je dois en conclure que l'être humain n'est pas parfait. Il faut une très grande complexité pour qu'il soit parfait. Surtout lorsqu'on fait de la métaphysique. Quel est le rôle de cette angoisse? Non, c'est pas angoisse, vous voyez. L'inquiétude n'est pas angoisse. L'angoisse, c'est une inquiétude qui n'a pas de nom, qui n'a pas de précision. On tombe plus dans l'abîme. Il y a toujours un abîme. C'est l'abîme qui nous donne angoisse, qui nous attire, et on ne sait pas pourquoi. Dès que vous savez quelque chose, vous avez la peur ou l'inquiétude. Ben vous savez, et vous pouvez analyser. Et ce qui est terrible dans l'angoisse, c'est qu'on ne peut pas analyser. Je suis angoissé. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je suis angoissé. Ça vous secoue tout. Et dans les autres choses, vous avez un point sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors vous êtes peut-être inquiet, mais comme il y a un point sur lequel on peut s'appuyer, ça va. Quand on a des difficultés de marcher, on peut être inquiet s'il y a un fossé, mais s'il y a un point sur lequel on peut s'appuyer, on marche. Alors, nous en étions à ce premier jugement d'existence. Ceci est. Et l'importance de ce jugement, c'est que l'être apparaît sous ses multiples formes. Vous voyez, je pars, ça il faut bien le comprendre, je pars de ceci est et non pas du je suis est. Alors ça, comparez bien cela pour mieux comprendre ce que nous avions dit hier. faites la différence entre le ceci et... et le je suis. Quand vous dites ceci est, puisque ceci, c'est n'importe quel ceci, indéterminé, il est tout entier relatif à est. Quand vous dites ceci est, vous accentuez, vous mettez l'accent sur « est ». Quand vous dites « je suis », vous mettez l'accent sur « je ». Vous voyez toute la différence entre le « je » et le « ceci ». Le « ceci », c'est n'importe quoi. C'est même « je ». Je peux très bien... dire que je suis est inclus dans ceci est. Mais le je suis n'est pas inclus dans le ceci est. Vous voyez, inclus, c'est-à-dire inclus en acte. Le ceci est très général, très universel. Tout est ceci est. Tout ce qui existe. Tandis que tout ce qui existe n'est pas « je suis ». Quand je dis « je suis », je me distingue de toi. C'est sûr. Je ne suis pas toi. Mais toi, tu es ceci et je suis ceci. Ça a l'air de rien, ça. C'est très facile à comprendre, hein, la différence entre ceci et... Mais c'est ça la différence de toute la philosophie européenne. La philosophie européenne a commencé par le ceci et... parce qu'elle était réaliste. Et au milieu, dès le XIVe siècle, le « je suis » est venu premier. C'est très amusant de voir ça. Étienne Judson ne dit pas ça, mais il dit première partie de la philosophie, l'intelligence est relative à l'être. Seconde partie, l'être est relatif à l'intelligence. C'est la même chose. Et on peut dire le prima objectif, le prima subjectif. Vous voyez, toutes ces choses-là disent la même chose sous des points de vue un peu différents. Alors l'avantage de prendre ceci et je suis, c'est que c'est plus objectif. Quand vous dites ceci est, dans le ceci, vous mettez n'importe quelle détermination. Et c'est comme ça. Et je suis, c'est comme ça. Deux inclinations différentes. L'attribution est dans le ceci emporte le ceci. L'être est l'acte. Dans le je suis, le je l'emporte sur l'être. Et donc, c'est très juste ce que dit Étienne Judson. La première partie de la philosophie européenne est objective. L'intelligence est relative à l'être. C'est ce que je vous disais à propos de le terrible, le transcendant. Le transcendant, c'est le terrible. C'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Je peux le saisir, mais pas le comprendre. Je ne l'enveloppe pas. Je ne le mesure pas. Il me mesure. Quand je dis ceci et quand j'atteins l'être dans mon jugement, je suis en face de quelque chose qui me dépasse. Que je saisis, que je touche, mais je ne peux que le toucher. Je ne comprends pas. L'être, vous devez revenir indéfiniment pour savoir ce qu'il est. Et vous prenez les 10 prédicaments. L'être, il est intelligent. L'être, il est volontaire. L'être, il est qualitatif. L'être, il est quantitatif. Il se donne sur toutes ses physionomies. Toutes les figures de l'être sont données par les 10 prédicaments. Les 10 prédicaments, on les étudie souvent en logique, comme les 10 manières d'attribuer quelque chose à un homme. Mais les 10 prédicaments expriment les 10 manières dont l'intelligence s'approche de la réalité. C'est curieux, ça n'a pas bougé, ça. Et au point de vue logique, on montre qu'il y a, au-delà des 10 prédicaments, les transcendentaux, c'est-à-dire des attributions qui dépassent les attributions prédicamentales et qui sont convertibles avec l'être. Alors vous avez là le vrai, le bon, vous avez là l'acte, quelqu'un, quelque chose, aliquid, unum, aliquid, res, verum, bonum. Aliquid, c'est quelque chose, c'est l'individu, c'est au point de vue de l'être, pas l'individu comme individu, mais il est quelque chose de distinct des autres. Aliquid, c'est quelque chose de distinct des autres et soi-même individué. Alors vous avez unum, aliquid, verum, bonum, res. Alors, on commence la métaphysique par ceci, et je cherche ces causes, c'est-à-dire ce qui est premier, ce qui est source des autres. Et je dis, pas de cause, pas de premier dans la matière. Parce qu'elle est relative. La matière est essentiellement relative. Au point de vue de l'être, elle est fondamentale au point de vue du venir et elle est relative au point de vue de l'être. C'est deux manières dont je peux regarder la matière. Donc elle est fondamentale, c'est pour ça que rien ne se perd. Au point de vue de l'être, le corps se transforme. Vous transformez ce que vous mangez et rien ne se perd. Et ce qui est vrai du corps humain est vrai des racines de l'arbre. Il pompe la terre, les racines de l'arbre, mais pas tout. Que quand il rencontre une pierre, hein, il met longtemps à la transformer. Il fait plutôt le détour. Il prend une stratégie d'enveloppement. Les racines font ça admirablement. regardez bien les racines et vous verrez qu'elles savent très bien contourner les obstacles. C'est merveilleux comme Einstein contourne les obstacles. Au point de vue du devenir, la matière est fondamentale. Tout devenir s'accomplit dans la matière, dans une matière, dans quelque chose de potentiel, de radicalement potentiel. Au point de vue métaphysique, la cause matérielle est pure puissance, toute relative. Donc pas de premier au point de vue de l'être, au point de vue de la cause matérielle. La métaphysique regarde la cause matérielle à propos du comment, mais à propos du pourquoi, qu'est-ce que c'est que la matière, la métaphysique laissera tomber, il n'y a pas de premier. Le premier, c'est du côté de la forme, la cause formelle qui détermine. Et je vous disais hier que le premier, du côté de la cause formelle, c'est la substance. Ce que nous avons fait l'année dernière, toute l'année dernière, était consacré à la recherche de la substance. Ce qui est le premier dans la forme. Alors, il faudrait reprendre cela, mais je ne le reprends pas, puisque cette année-ci, on voit le point de vue de l'acte. Je présuppose le problème fait. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, c'est simplement la substance, c'est le principe. Le premier, la cause de l'être, selon la recherche de la cause formelle. C'est la détermination la plus radicale. Il n'y a que la substance qui échappe au devenir. Il n'y a pas de substance dans le devenir. C'est pour ça que le savant ne peut pas atteindre la substance. Il atteint que le devenir dans l'expérimentation. Et pour nous, très souvent, le métaxu, pour bien atteindre la substance, c'est l'âme, la première voie d'accès. Et puis, l'autre voie d'accès, c'est les prédicaments. Qu'est-ce qui est premier dans les attributions ? Vous saisissez donc le premier dans l'ordre de la cause formelle. Dans l'ordre de la cause efficiente. Alors ça, c'est beaucoup plus délicat. Dans l'ordre de la cause efficiente, il n'y a pas de premier au plan métaphysique. Mais il y a un premier dans la réalité existante. Vous voyez, la substance est atteinte dans une analyse métaphysique comme principe. Dieu n'est jamais atteint comme principe. Il est principe, mais je ne l'atteins pas comme principe. Parce qu'il faudrait avoir la vision de Dieu. Tant que je n'ai pas la vision de Dieu, je ne le vois pas comme principe. Je le pose parce qu'il existe d'autres réalités qui dépendent de lui. je le pose comme premier dans l'ordre de l'être. Mais le premier dans l'ordre de l'être n'est pas premier dans l'ordre de l'efficacité. Dans la saisie, il est réellement premier comme créateur, donc comme cause efficiente, mais il n'est pas atteint comme cause efficiente. Je n'ai pas d'expérience de la création. C'est bien dommage. Hein. Vous savez, il y a ces... au point de vue de l'électricité, on montre le danger d'être électrocuté. On serait électrocuté si on avait l'expérience de la création. Ce serait quelque chose de tellement formidable. Je ne peux pas. Mon efficience, ma causalité efficience est toujours liée au devenir. Dans le travail. Dans le travail, vous faites quelque chose. Le maçon qui construit un mur, qui édifie un mur, il a l'expérience de la causalité efficience. Sa main qui prend du ciment, met une pierre dessus, puis recommence, puis ça monte. Il a l'expérience de la causalité efficience. L'artiste qui modèle l'argile, la terre, et qui en fait une statue. Il a l'expérience de la transformation. J'ai l'expérience toujours de la cause efficiente dans le devenir. Mais la cause efficiente de l'être, de ce qui est, je n'ai pas l'expérience d'un premier. Ce premier existe, mais il m'échappe, parce qu'il vient d'en haut. Il faut découvrir Dieu avant de découvrir le Créateur. C'est peut-être ça qui vous fait le mieux saisir. Il faut découvrir Dieu avant de saisir le Créateur. Chaque fois qu'on essaie de saisir le Créateur avant Dieu, on ne saisit pas Dieu. Platon. C'est très intéressant de voir la manière dont Platon saisit Dieu et la manière dont Aristote saisit Dieu. C'est deux grands philosophes. Platon saisit non pas Dieu, mais celui qui est le premier fabricateur des réalités. Il ne saisit pas Dieu, il saisit le premier dans l'ordre de l'art. Et il reste attaché au devenir. Aristote, parce qu'il regarde l'être avant le bien, avant l'efficience, peut atteindre Dieu. Une fois qu'il atteint Dieu, il regarde la relation de Dieu avec moi. Et alors, il parle de la création. Je n'ai pas l'expérience du Créateur. Je n'ai pas l'expérience de la création. Toutes mes expériences restent sensibles. Toutes mes expériences atteignent le devenir, mais pas plus. Je n'ai jamais atteint l'être dans l'expérience. Je l'atteins dans le jugement. Le jugement n'est pas une expérience. C'est l'intelligence qui touche comme intelligence, qui touche une réalité qui est au-delà de l'appréhension, qui est au-delà de ce que je peux saisir comme universel. Quand Aristote dit que l'être n'est pas un genre, il veut montrer justement que l'être est au-delà du genre. Je ne peux pas le saisir par l'universel, comme un universel, comme le premier universel. C'est vrai qu'au point de vue logique, l'être est l'attribution attribuée d'une façon la plus universelle qui soit. Tout ce qui est, est. Et tout ce qui est, tous les soucis, sauf le ceci idéal, n'est pas. Il est dans l'intelligence. Mais le ceci que j'atteins dans la réalité, le ceci qui est, lui, alors c'est différent. C'est l'être dans le devenir. Donc, il n'y a pas de premier dans la causalité efficiente, au point de vue de l'être. Mais au point de vue final, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Au contraire, il doit y en avoir une. Ce en vue de quoi est l'être. Posez-vous la question loyalement. Ce en vue de quoi est l'être. Autrement dit, est-ce que le devenir est pour l'être ou l'être est-il pour le devenir? Ça, c'est une très bonne question. Il faut la répondre. Est-ce que l'être que mon intelligence atteint quand elle dit ceci est, est-ce que cet être et pour le devenir, ou est-ce que le devenir est pour l'être? Vous allez distinguer. Le devenir, au point de vue vital, l'opération. L'opération provient d'un vivant. Est-ce que cette opération est pour le vivant ou est-ce que le vivant est pour l'opération? Prenez l'homme, le vivant. Quand vous écrivez, quand vous essayez de comprendre, quand vous cherchez la vérité, est-ce que le vivant est pour chercher la vérité ou est-ce que pour la vérité est pour le vivant? Pour indique la causalité finale, en vue de quoi je travaille. C'est pour quelqu'un. Et ce quelqu'un est celui qui me finalise. Je travaille pour quelqu'un. Vous voyez, la réponse n'est pas simple. Parce que, à la fois, le vivant est pour son opération, je suis pour la recherche de la vérité. C'est ça qui me finalise. Et en même temps, cette recherche de la vérité est pour moi, puisque c'est ça qui me perfectionne. Et ceci, c'est parce que l'opération vitale est immanente. À la différence, une opération purement dans le devenir. Dans le pur devenir, je vois que le devenir est pour l'être, mais pas l'être pour le devenir. Il y a donc tous les prédicaments impliquent le devenir, la substance n'implique pas le devenir. Elle est première dans l'ordre de l'être. En elle, elle n'implique pas devenir. C'est pour ça que c'est si difficile de saisir la substance comme premier selon la cause formelle. Et je dois chercher ensuite quelle est la fin de l'être. Ce pourquoi l'être existe, ce pourquoi il est. Vous voyez, c'est le point de vue extrême. Là, vous pourriez dire, oh non, il n'y a pas de recherche de la finalité au niveau de l'être. C'est ce qu'a dit Don Scott. Et derrière Don Scott, tous les autres, et Platon. Il n'y a pas de finalité au niveau de l'être. La finalité n'existe qu'au niveau du devenir. C'est vrai que quand j'essaie de comprendre la finalité, je la comprends bien du côté artistique. L'artiste fait une œuvre. Et quand il fait une œuvre, il est pour cette œuvre. Quand l'œuvre est faite, est-ce que l'œuvre finalise l'artiste ? Ou est-ce que l'artiste domine l'œuvre ? Et que d'une certaine façon, l'œuvre le glorifie et il n'est pas finalisé par l'œuvre. C'est une chose très particulière. Quand on fait quelque chose, l'artiste qui fait une maison, la maison comme telle est bien ce qui finalise son travail. Et tout son travail était finalisé par ça. Mais est-ce que cette œuvre finalise l'homme ? Non. Parce qu'elle est faite par l'homme. Or, quelque chose que j'ai fait ne peut pas me finaliser. Quelque chose que j'ai fait, je domine. L'artiste domine son œuvre par son idée qui l'a conduit à réaliser l'œuvre. Et cette idée intérieure, cette idée, cette inspiration qu'il a eue, est plus forte que l'œuvre. Et c'est pour ça que l'artiste n'est jamais content de son œuvre. L'œuvre ne finalise pas l'artiste. L'œuvre finalise son travail, mais pas l'artiste. Et l'artiste possède en lui l'idéa dépasse l'œuvre. Mais il est seul à la voir. Parce que s'il fait son œuvre, c'est pour communiquer aux autres son idée. Et lui n'est pas content de son idée, parce que comparativement à l'idée, l'œuvre est matérielle. Et donc l'idée est plus formelle. Elle a quelque chose de plus, toujours. Très intéressant. Parce que ça, c'est... on est plus familier avec l'œuvre artistique. Prenez l'œuvre artistique. Simplement, quand vous faites une dissertation, vous faites une œuvre artistique. Hein ? Petite dissertation. La première dissertation que vous avez faite, vous avez dit que c'est un chef-d'œuvre. Il y ressort ce travail. Il sera émerveillé. C'est le travail que vous faites en faisant une dissertation, c'est une œuvre d'art. C'est peut-être complètement raté comme œuvre d'art. Ça arrive. C'est complètement à côté. Ça n'a aucune beauté. C'est trop matériel. Il y a la feuille de papier comme matière et puis il y a l'écriture. Peut-être que c'est très beau à voir. C'est peut-être un chef-d'œuvre pictural. Aujourd'hui, on peut présenter ça comme chef-d'œuvre pictural. Une écriture très fantaisiste, extraordinaire, qui fait. Et c'est quelque chose de très. Mais ça ne correspond pas du tout à ce que vous avez voulu. Vous avez voulu transmettre ce que vous connaissiez. Et on regarde de l'extérieur uniquement le sensible. Ça arrive, ça. C'est ce qu'on appelle des équivoques. Vous comprenez ? Vous avez essayé de transmettre votre idée, une vérité, et puis l'autre, il la regarde de l'extérieur, en voyant que ce qui est extérieur, ça peut être très beau. Et pour celui qui l'a fait, il n'est jamais content. Sauf peut-être un instant où il est content parce qu'enfin c'est terminé. Vous voyez ? Et ça fait très bien comprendre comment l'œuvre finalise le travail. Enfin, c'est terminé. Alors, je me repose. On peut toujours se reposer dans la fin. Et le site de la fin, c'est le repos. Vous avez donc, au point de vue artistique, une vision très particulière de la fin, parce que cette fin, elle est un effet. Alors la scolastique disait fin, effet, finis, effectus. Et c'est très juste. C'est une fin et un effet. C'est une fin et un résultat. En tant que résultat, elle n'est pas fin. En tant que qu'elle termine le travail, elle est fin. C'est la première expérience de la finalité que vous avez. C'est pour ça qu'il faut tout le temps y revenir. Parce que ça, vous êtes obligé d'accepter que oui, ça existe, c'est très vrai. La première fois que j'ai fait une dissertation et que j'ai terminé, ouf, terminé. Vous avez touché une fin. C'est terminé. Vous voyez, la fin est là, quelque chose qui termine. Je ne veux pas au-dessus, pas la peine. Et on vous dira, ah, il faut rajouter ça. Oh, si vous voulez, je vais rajouter mon nom, je ne l'avais pas mis avant. C'est rien du tout. On l'a rajouté. Et on vous dit, il faut recommencer. Ah. Quand on vous dit « il faut recommencer », on dit « ce n'est pas une fin, ce n'est pas un travail, vous ne pouvez pas présenter ça, c'est une ébauche, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose d'intéressant, à la page 2, oui c'est intéressant, là vous avez une petite remarque, il a mis bien, et tout le reste, hein. Il n'a pas mis mal, mais sous-jacent, le bien apparaît à travers. Bon,
Première expérience de la finalité. Seconde expérience de la finalité, totalement différente, l'amitié. L'ami est fin. Les vertus ne sont pas fins. Finis effectus, peut-être. J'ai eu beaucoup de mal d'arriver à la tempérance. Chaque fois que je voyais un gâteau, je me précipitais dessus. La tempérance, la justice, la force. J'acquiers les vertus, c'est un avoir. Les vertus sont d'une certaine façon fins, mais fins intermédiaires, en vue de l'amitié. Si je suis vertueux, c'est pour aimer. C'est uniquement pour ça. Donc la vertu est en vue de l'amour d'une personne. Parce que si je suis intempérant, si je suis quelqu'un qui prend tout le temps, dès qu'il voit quelque chose de bien, il le prend, indépendamment de la justice, votre ami ne restera pas très longtemps votre ami. Ce qui va vous dépouiller de tout ce que vous avez, ça l'intéresse. Ça l'intéresse parce que vous êtes son ami. Oui, mais c'est mon bien. Et c'est mon bien qu'on prend. Alors je vois très bien que la vertu, c'est pour aimer. Et dans l'amitié, j'aime mon ami. J'aime une personne. Et cette personne est ma fin. C'est deux exemples qu'on doit toujours avoir et creuser. Deux exemples de finalité. C'est dans le devenir. C'est la finalité dans le devenir. Déjà un peu plus immanente dans l'amitié, mais c'est quand même dans le devenir. C'est pas l'être. La finalité dans la vie est facile à comprendre, dans tout ce qui est vital. La finalité du crapaud, ce petit animal que j'aime particulièrement, parce qu'il est crapaud, et il ne veut pas être autre chose. La finalité du crapaud, c'est d'engendrer d'autres crapauds. C'est vrai. La vie végétative est ordonnée à la procréation. Et ça dure tout le temps. Hein. Le crapaud est père du petit crapaud. Et le petit crapaud devenant père. Père devient grand-père. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est le devenir constant. Mais il y a une finalité. Dans le devenir, il y a une finalité. La finalité dans l'être. Arriver à penser ça. Ça, c'est très important pour savoir où on va. Si on ne voit pas où on va, on ne sait pas chercher. Une recherche de celui qui ne sait pas où il va, il ne recherche pas. Il va au hasard, n'importe comment. Tandis que si je sais ce qu'est la finalité pour l'être, ah, à ce moment-là, je chercherai. J'ai vu qu'il y a une fin et fait. Finis effectus. Il y a une fin et fait dans l'œuvre d'art. Alors que fin et effet s'opposent normalement. Puisque effet veut dire quelque chose qui est relatif à celui qui l'a fait. Dépendant de celui qui l'a fait. tandis que fin, c'est celui qui attire celui, un autre, et lui est indépendant, comme fin, mais il attire. Donc, il y a une espèce de d'opposition entre fin et effet. Les qualités de la fin ne sont pas les qualités de l'effet. L'effet comme effet est dépendant. La finalité comme finalité attire. C'est pour ma gloire. Quelque chose de bien. Et si jamais quelqu'un vient, un imbécile arrive entre deux et détruit sous vos yeux l'œuvre que vous avez faite, vous êtes en colère. Vous avez brisé ce que j'ai fait. Et ce que je faisais était ma gloire. Était pour ma gloire. Et c'est vrai, ça. Tout chef-d'œuvre réalisé par un artiste est pour sa gloire. Et pour sa gloire, ça le dépasse. Donc le tableau, comme réalisé, et s'il est réalisé parfaitement, il dépasse l'artiste. Il l'attire. Et il reste effet. C'est très curieux. Qu'est-ce qui va unir cette fin effet, c'est l'être. Cela existe. Et dans l'existence, les deux se trouvent. L'être est donc supérieur à ces deux. J'ai vu qu'il n'y avait pas de causalité efficiente dans l'être, donc je supprime. Je ne peux pas réaliser l'être. Mais je peux considérer que l'être me finalise. Vous voyez ? C'est pour ça que j'ai pris exprès ces exemples. Pour vous montrer que dans le devenir, l'être, la fin et l'effet s'unissent, peuvent s'unir dans l'œuvre d'art. C'est curieux. Et il y aura des œuvres d'art qui sont des effets, des effets. Quand Rouault brûlait 300 de ses tableaux parce qu'il ne se vendait pas et qu'il restait chez lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a brûlé sa gloire ? Non. Ses tableaux étaient des effets. Il les avait faits. Il en était donc le maître. Il pouvait les brûler. Il l'encombrait. Et Rouault disait, il me l'a dit devant moi, et Rouault disait, on dira que Rouault est sadique parce qu'il a brûlé 300 de ses enfants. 300 tableaux. Les héritiers de Rouault disent, c'est bien dommage qu'il ne les a pas mis dans un grenier. On les vendrait maintenant très cher. Et du vivant de Rouault. Puis, il faut essayer de comprendre la complexité qu'on voit dans la causalité finale. C'est pour ça que si facilement on la nie, la finalité ne joue plus aucun rôle aujourd'hui. Aucun rôle en politique. C'est seulement la causalité efficiente. On vit dans la domination de la causalité efficiente qui cache complètement l'être. Parce qu'elle n'atteint pas l'être. Elle est infinie. C'est pour ça qu'elle est si fatigante. Et un monde qui ne vit que de la finalité efficiente est un monde qui se fatigue et qui nécessairement va vers sa perte. Il n'y a plus de repos véritable, C'est très curieux. Et il faut saisir ça dans les exemples que nous avons. Vous voyez, le travail pour le travail, sans finalité, est fatigant. C'est pour ça qu'il faut montrer toujours la finalité. Vous travaillez en vue de quoi ? Alors, si vous êtes chrétien, vous arrivez à dominer toutes les ascèses, je fais ça pour Jésus. Au petit gosse qui ne veut pas manger sa soupe, une cuillère pour Jésus, une cuillère pour Marie, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, finalité, qui s'ajoute comme ça, au-dessus de la soupe. Mais il y a le pour, et le pour aide. Quand ce pour n'existe plus, comme maintenant, prends ta soupe. Ben, désagréable, j'aime pas la soupe. J'aime pas. Pour rien faire. Vous êtes devant l'âne qui ne bouge pas. Il ne bougera pas. Il faut le pour agir. La finalité va être l'âme de l'efficience. C'est la finalité qui permet l'efficience d'agir. Et c'est pour ça que vous dites, saint Thomas le redit, et qu'Aristote a dit, la causalité finale est cause des causes. Elle est ce pourquoi et ce qui permet à l'efficience d'agir. Et donc la causalité efficiente est dépendante de la finalité. Et quand la finalité n'existe plus, la causalité efficience se fatigue. Elle ne marche que par violence, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Mais il n'y a plus le pour. Il y a parce que si je ne fais pas ça, je vais en prison. Parce que je ne fais pas ça, je n'aurai plus un seul sou. Parce que je ne fais pas ça, je ne pourrai plus vivre. C'est pas la finalité, ça. C'est la condition sine qua non, qui n'est pas finalité, qui est du côté du fondement. Et qui remplace la finalité. Mais qui remplace la finalité sans donner ce que la finalité donne, la possibilité du repos. On se repose en sa fin. Tandis que quand on fait une chose parce qu'il faut la faire, il n'y a pas de repos. On dit vite que ce soit fini, vite que ce soit terminé. Pourquoi les hommes n'aiment plus travailler? Parce qu'ils ne voient plus les finalités. Vite que ce soit terminé. Alors, ce qu'on se demande, ce qu'on réclame, c'est de travailler le moins possible. Il n'y a plus la finalité. Ça, c'est pour que vous entriez dans la finalité du côté de l'être. Entrer dans la finalité du côté d'être, que si je veux aller jusqu'au bout de savoir ce qu'est la finalité, qu'est-ce que c'est que la finalité, est inscrite dans l'être.